avec des professionnels. Et puis, ben, les professionnels sont là, nous, on est là, et puis, ben, on essaye de s'accrocher, et c'est un super moyen de progresser, même si vraiment, on ne se sentait pas à la hauteur, hein. C'était vraiment difficile. Et ce stage, ben, évidemment, moi, j'avais envie de le mener jusqu'au bout. Et puis, pendant ce moment de prière, le Seigneur m'a parlé, mais vraiment d'une façon bien claire. Il m'a dit, Emmanuel, donne-moi ce stage. Je vous assure que je ne voulais pas. Parce qu'il y avait le concert le lendemain, le vendredi soir, le samedi soir, on avait travaillé dur. Moi, je voulais, j'aime bien mener les choses jusqu'au bout. Mais le Seigneur, il m'a clairement demandé, Emmanuel, donne-moi ce stage. C'était pendant le moment de prière. Je vous assure que j'ai pleuré. Et j'ai réfléchi, j'ai pesé, j'ai dit, ben, Seigneur, je te donne ce stage. Et j'ai donc décidé de renoncer à mener ce stage jusqu'au bout. Et pourquoi le Seigneur me le demandait? Ben, c'est parce qu'il fallait s'occuper de Timothée. Mener le stage jusqu'au bout, ça veut dire que Timothée devait encore attendre, on devait rentrer dimanche. Et là, on était jeudi. Bon, c'est vrai qu'il se traînait comme ça depuis pas mal de semaines. Et on pouvait penser, ben, on n'est plus à 2 jours près, quoi, 2, 3 jours près. Mais non, le Seigneur me l'a demandé. Alors, ben, j'ai dit au Seigneur, ben, je te donne le stage. Et autant avant, dans mon cœur, il y avait un combat, je voulais vraiment mener ça jusqu'au bout. Autant quand j'ai décidé de le donner au Seigneur, le pas, il était fait. C'était plus un problème de rentrer plus vite. Et donc, dans mon cœur, j'avais décidé de rentrer plus vite. Mais je l'ai dit à personne, parce qu'on n'avait pas encore eu les résultats. Et en fait, Isabelle est passée, on a eu les résultats. Et on a appelé, Claudine a voulu qu'on appelle, c'était son médecin de famille qu'on avait été voir avec Timothée parce que ça n'allait pas. Et donc, elle a appelé son médecin qui venait justement d'être appelé par le laboratoire qui était là avec les résultats et qui disait, il y a un problème quand même, il faut faire quelque chose, quoi. Et donc, j'ai eu le médecin au téléphone et le médecin, il m'a dit, écoutez, monsieur, à mon avis, votre fils nécessite une prise en charge hospitalière. Et peu de temps avant, le Seigneur s'était adressé à moi de cette façon. Pour moi, c'était 2 choses qui allaient vraiment dans le même sens. Et puis, ben, j'ai dit, bon, je l'ai remercié pour ce conseil qu'il me donnait. Et puis, j'ai dit à ma cousine, écoute, Claudine, on va rentrer plus vite. Et c'est là que je lui ai expliqué ce qui s'était passé dans mon cœur avant. Elle m'a dit, mais comment tu vois les choses? Comment tu vas faire? Je lui ai dit, ben, on fait nos bagages et on part. On rentre, on y était 4h, 4h30, l'après-midi. Je lui ai dit, ben, je vais rouler toute la nuit, demain, et demain, on sera aux urgences pour soigner Timothée. Donc, on a fait nos bagages, tout le monde a obéi. C'est sûr, Anne, elle aurait bien aimé mener le stage aussi, Rachel aussi, c'était une super expérience, mais tout le monde a obéi. On a fait nos bagages, en 2 heures, tout était emballé dans la remorque, dans la voiture, et on était parti. Et puis, bon, ensuite, c'est tout ce que vous connaissez avec Timothée. Mais ce n'est pas tout. C'est que pendant le séjour en Espagne, ce qu'on ne savait pas trop, c'est que nos violons avaient souffert de l'humidité. On était dans une maison troglodyte. C'est super parce que du coup, il y a un peu de fraîcheur juste au bord de la mer. Ce qu'on ne savait pas, c'est qu'une maison troglodyte, c'est extrêmement humide. On ne savait pas. Et puis, ben, c'était vraiment pas à faire d'aller prendre nos violons. Et puis, donc, de retour, on a consulté notre médecin des violons, hein, le luthier. Et puis, elle a regardé de près les 2 violons. Elle a dit, bon, c'est un problème classique. Elle a travaillé à Taïwan. Et elle a dit, c'est classique, c'est des violons qui prennent l'humidité. Le manche, à la base, il gonfle, provoquant une inclinaison de la touche vers le corps du violon et donc un énorme écart entre la touche et les cordes. Puis ben, on n'arrive plus, c'est très difficile à jouer. Alors la réparation, ben, c'était x2 parce qu'il y avait 2 violons à faire et c'était cher. Et là, compte tenu de ce que le Seigneur m'avait demandé par rapport au violon, pour moi, il y avait un choix à faire. C'est que financièrement, c'était cher de tout réparer, mais en le voulant vraiment, on pouvait quand même y arriver. Mais pour moi, le Seigneur, il m'avait demandé une chose. C'était de mettre le violon de côté pour m'occuper de Timothée. Parce que, et on est en train de le voir, ça prend beaucoup de temps. Et donc, quand on était chez le luthier, dans mon cœur, j'ai fait le choix. J'ai dit, bon, Anne, c'est évident, elle en a besoin pour ses études. Moi, tant pis, j'obéis au Seigneur, ça attendra. Ça a été dur, hein, parce que vous savez que j'aime beaucoup le violon. J'étais super content d'en jouer, d'aller aussi à l'école de musique, de travailler, de faire des progrès, de... Voilà. Mais le Seigneur m'a demandé de faire une pause. Je ne sais pas pour combien de temps, mais j'ai choisi d'obéir au Seigneur pour m'occuper de Timothée, en même temps de Nathanaël aussi. Bon, le violon, c'est sûr, c'est un super instrument, mais qui nécessite beaucoup, beaucoup de précision. Et si on ne travaille pas régulièrement, on n'arrive plus à bien jouer. Et ça me prenait beaucoup de temps. Et ce temps-là, le Seigneur me demande de le réinvestir, de le redéployer autrement. Alors j'ai choisi d'obéir. Et depuis, le thème de l'obéissance tourne dans mon cœur. Et Jésus lui-même l'a dit, hein, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et en sachant que je devais prêcher, j'aurais eu du mal à prêcher d'autre chose que de prêcher sur l'obéissance à Christ. Et l'obéissance de Christ aussi, parce qu'il a été notre modèle en termes d'obéissance. Alors, de la même façon, je veux dire que j'ai décidé dans mon cœur de me soumettre à ce que le Seigneur me demandait. Et on va se pencher maintenant sur l'obéissance au Seigneur. Et on va regarder plusieurs passages bibliques. On pourrait s'arrêter sur beaucoup d'endroits dans la Bible, mais évidemment, on ne va pas tout regarder ce matin. Et on va juste survoler quelques endroits, quelques versets qui parlent de l'obéissance. En tout premier, on va se pencher sur la personne de Jésus, parce qu'il est le modèle, il est notre modèle, et il a été celui qui a obéi en premier. Et il y a déjà un verset qui peut un peu nous surprendre. Dans Hébreux 5:8, il est écrit « Bien qu'il a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. » Il a appris par la souffrance l'obéissance. Et c'est vrai qu'obéir, c'est pas toujours facile. Vous devez le savoir, je vous l'apprends pas. Quand on est enfant, déjà, on se doit d'obéir à ses parents. Et c'est pas toujours facile. Moi, je m'en souviens. Mes enfants le savent. Hein, Nat ? Et on le sait tous. Nos enfants, les enfants dans l'église le savent. Obéir, c'est pas forcément un sujet de joie. C'est renoncer aussi. Mais le Seigneur nous demande d'obéir avec joie et c'est tout un apprentissage. C'est toute une éducation de notre âme, de notre esprit, de notre volonté, de notre corps, de toutes nos fibres. Pour obéir au Seigneur avec joie, il faut être vraiment passé par une conversion, avoir été modelé, transformé de fond en comble pour y arriver et le faire tout de suite avec le répondant, le pétillement d'obéissance que Dieu attend de notre part. Et Jésus, c'est écrit qu'il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. C'est un verset qui peut surprendre un peu. On se dit, mais Jésus, c'était le Fils de Dieu. Il est né dans un corps comme nous et on a envie de se dire, pour lui, ça n'a pas dû être difficile d'obéir. C'était quand même le Fils de Dieu, il n'a jamais péché. Et pourtant, dans ce verset contient quand même une information. Il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Donc il a dû souffrir quelque part à plusieurs moments pour apprendre l'obéissance. Il n'y a pas trop de détails là-dessus, mais c'est simple, cette simple juxtaposition de mots nous laisse penser que oui, Jésus aussi a souffert pour apprendre l'obéissance. Alors on le sait au niveau du jardin de Gethsémané, quand des grumeaux de sang sont sortis de son front, il a souffert et il est allé jusqu'au bout dans l'obéissance à son Père. Bien avant cela, dans Luc 2,51, il nous est dit qu'il était soumis à ses parents. Vous connaissez tous l'histoire, hein, quand ils l'ont cherché, ils étaient venus à la fête à Jérusalem et il était dans le temple avec les pharisiens, il est questionné, il s'occupait des affaires de son Père céleste. Ses parents le cherchaient et quand ils l'ont trouvé, ben, il leur a dit « Ne saviez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père ?» Et il aurait pu dire « Vous allez me laisser tranquille, j'ai encore des questions à poser aux pharisiens. » Mais non, il a été soumis à ses parents et il les a suivis. Il n'a pas fait valoir sa divinité comme étant un motif de non-obéissance à ses parents. Nous, on aurait peut-être eu envie de faire ça. Mais non, Jésus n'a pas utilisé cet argument, il a obéi à ses parents. Et un verset qui me bouleverse, on va le lire dans Hébreux 10. Hébreux 10, 7. Donc Hébreux 10, verset 7. On va prendre le 5. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit « Voici, je viens. » Dans le rouleau du livre, il est question de moi « Pour faire, ô Dieu, ta volonté. » On revient juste avant. Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Pesez le poids de ces mots. C'est Jésus qui le dit. Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande. Parce qu'avant, on offrait des animaux. On les tuait, on les offrait à Dieu pour le pardon des péchés. Mais finalement, ça n'a pas résolu le problème du péché. Et là, Jésus continue en disant, mais tu m'as formé un corps. Et dans toute l'obéissance de Jésus envers son Père, il savait que ce corps qui a été formé était destiné à être offert à Dieu en sacrifice. C'est bouleversant, imaginez-vous un peu à la place de Jésus. C'est qu'il savait que le corps qui lui a été formé, qui lui a été donné, il était voué à être sacrifié. Vous imaginez l'obéissance de Jésus pour accepter dans toute la profondeur cette réalité. Tu n'as pas voulu les sacrifices des animaux, mais tu m'as formé un corps et je vais te le donner, mon Père. Je vais te l'offrir pour sauver tout cela. Pour sauver cette multitude. Jésus savait dans toutes ses fibres que ce corps dans lequel il avait été placé sur la terre, il était voué à être sacrifié. Mettez-vous un peu dans cette position, comme si vous étiez à la place de Jésus. Vous prenez conscience que ce corps que Dieu vous a donné, vous allez devoir l'offrir à Dieu. Pas évident, hein? Mais si on regarde les conséquences de l'obéissance de Jésus, dans Romains 5, 19, il est écrit « par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes ». Et le parallèle, il est fait par la désobéissance d'un seul, Adam. Le péché s'est étendu à toute l'humanité. Et de la même façon, par l'obéissance d'un seul, Jésus, la grâce a pu être étendue à tous les hommes. Le fruit de l'obéissance de Jésus, c'est la grâce pour nous. C'est merveilleux de prendre conscience que cette obéissance si précieuse que Jésus a déployée, a montrée, dont il a fait preuve, c'est pour nous le salut de notre âme. s'il avait eu un moment d'hésitation et s'il avait renoncé à cette obéissance à un moment, on serait perdu, sans solution au péché. Et c'est par son obéissance à Dieu, à son Père, qu'aujourd'hui, on a la solution au problème du péché. Moi, en creusant ça, surtout le « mais tu m'as donné un corps », c'est quand Jésus a prononcé ces paroles, j'imagine l'émotion qu'il a dû ressentir. « Mais tu m'as donné un corps. Et ce corps, mon Père, je vais te l'offrir pour le salut de tous les hommes. » On pourrait encore bien creuser sur l'obéissance de Jésus dans bien des domaines. Oh, oh là là. Désolé. Oh là 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 là. Je bouge trop. Merci, Maïté. On va continuer quand même. Et donc Jésus, après toute cette souffrance, toute cette mort, il est ressuscité. Et aujourd'hui, où est-il? Assis à la droite de Dieu. Son obéissance l'a conduit à la gloire. Et de la même façon, notre obéissance à nous, à Christ, à Dieu, elle va nous conduire aussi à la droite de Dieu avec Jésus. Et maintenant, on va continuer de creuser dans ce qu'est l'obéissance, dans l'importance de l'obéissance aux yeux de Dieu. On va regarder dans Samuel. Oh, par contre, je n'ai pas précisé dans quel Samuel. Samuel, on va regarder 1:22. Alors, 1:22. Alors, je ne sais plus si c'est... Je n'ai pas noté si c'était 1 Samuel ou 2 Samuel. Alors, j'ai noté 1:22. Excusez-moi. C'est quand Saül revient, il a battu une nation et il devait tout dévouer par interdit. Et il revient avec les animaux qu'il veut offrir à l'Éternel, alors que Dieu avait demandé de tout dévouer par interdit. Comment ? 1 Samuel 15, merci. Donc ça doit être le verset 22 par contre. Il y a une histoire de 22, mais 1 Samuel 15, c'est ça ? Donc voilà, au moins vous connaissez le contexte. Donc Samuel a vaincu des ennemis. Merci, mais il ne faut pas en remettre. Et puis donc, Dieu lui avait dit, tu dévoueras tout par interdit. Et Samuel a pris une initiative malheureuse. Saül a pris une initiative malheureuse de revenir avec le bétail et voulait l'offrir à Dieu. C'était son initiative, mais ce n'était pas du tout ce que Dieu avait demandé. Et Samuel, il lui dit, Dieu, au verset 22, « Dieu trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel ? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. » On pourrait se dire, ah ouais, quand même, il allait faire un super sacrifice. En plus, un méga sacrifice. Il devait y en avoir des animaux à offrir. Humainement, on aurait pu se dire, quand même, Seigneur, Samuel, il exagère. Ça aurait pu faire une super fête pour couronner une victoire. Un énorme sacrifice en l'honneur de l'Éternel. Mais ce qui compte, c'est pas tout le tralala, tout le rififi qu'on fait. Ce qui compte, c'est d'obéir au Seigneur. Et là, Samuel a été clair. Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Et on peut réfléchir à nous dans notre vie. Comment on mène notre barque? Est-ce que on accorde beaucoup d'importance à tout ce qu'on fait pour le Seigneur? Tout le temps qu'on passe à faire ci, à faire ça? Est-ce que vraiment le Seigneur nous l'a demandé? S'il nous l'a demandé, c'est très bien. Hein? Mais peut-être qu'il nous a rien demandé du tout. Et c'est nous qui le faisons. Comme Samuel a voulu faire quelque chose. Et là, on peut peut-être réfléchir à se recentrer. Qu'est-ce qui compte dans ma vie? C'est de m'agiter de côté et d'autre avec une couverture pour le Seigneur? Ou de chercher vraiment que veut le Seigneur pour moi personnellement dans ma vie? Et c'est vraiment capital de savoir que tout ce qu'on fait pour le Seigneur, on doit être convaincu que c'est le Seigneur qui nous le demande. C'est lui qui le veut. Alors là, on peut y aller. On va être heureux dans notre activité. Sinon, on bat l'air. On se fatigue. On s'use. On fait plein de choses. Mais pas forcément ce que le Seigneur nous a demandé. Moi, ça me fait penser à Marthe et Marie. Hein, Marthe, elle s'agitait beaucoup et quelque part, c'était légitime aussi. Il en faut bien qu'il fasse à manger. Sinon, on aurait tous faim. Mais Jésus n'a pas fait de reproche à Marthe. C'est Marthe qui a fait des reproches à Jésus. « Mais enfin, Seigneur, dis à Marie de venir m'aider, tu vois pas, moi je cavale et tout, c'est moi qui fais tout. » Et Jésus lui a dit, Marthe, bah oui, tu t'agites, c'est vrai. Tu fais plein de choses là. Mais tu sais, Marie, elle a choisi la bonne part. Et nous, dans notre vie, est-ce qu'on a choisi la bonne part? Ou est-ce qu'on fait partie de ceux qui s'agitent, qui ont un planning surbooké et qu'en fait, le Seigneur n'avait pas demandé tout ça? Et si, dans nos vies, on se focalise vraiment à faire ce que Dieu nous a demandé. Eh bien, on est comme Marie. On n'a pas de reproche à faire au Seigneur. On est assis pour l'écouter dans la paix et dans l'obéissance. Et ce n'est pas la même vie. Hein. Ce n'est pas du tout la même vie. Ça ne veut pas dire que quand on est assis au pied du Seigneur, on ne court jamais, hein. Mais l'important, c'est de savoir individuellement et personnellement ce que je fais. Je sais que c'est la mission que le Seigneur m'a confiée. Et je lui obéis sur toute la ligne. Et ce qu'il ne m'a pas demandé, c'est que ce n'est pas important. Je dois être assis dans le repos au pied du Seigneur. D'ailleurs, c'est dans un psaume que j'aime beaucoup. Hein. Celui qui, je ne l'ai pas préparé, mais j'ai un petit trou, mais celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre d'El Shaddai. Et ça, c'est un verset que j'aime bien. Hein. Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut. Et quand on obéit, ben on est à l'abri. Si on demeure dans l'obéissance au Seigneur, alors on repose à l'ombre de l'Éternel, d'El Shaddai. Et ce n'est pas l'agitation, il y en a trop, non. On repose à l'ombre d'El Shaddai. Merci. On va continuer avec Colossiens 3:20, c'est un verset que j'aimais pas trop quand j'étais enfant. Colossiens 3:20, enfants, Obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable au Seigneur. Que voulez-vous ? C'est écrit. C'est agréable au Seigneur que les enfants obéissent à leurs parents. Quand on est enfant, on se doit d'obéir à ses parents. Mais nous, parents, on a aussi des parents spirituels, on a un Père céleste, on doit être un modèle d'obéissance nous-mêmes. Hein. On n'a pas à dire ah, « tu dois obéir, c'est comme ça !» Et puis nous, avoir une vie que on ne reflète en rien l'obéissance au Seigneur. Là, on est complètement à la côté de la plaque. Hein. L'esprit dans lequel tout ça, ça a été écrit, c'est que le tout baigne dans un bain profond d'obéissance. Et si nous-mêmes, on baigne dans ce bain d'obéissance par rapport au Seigneur, dans la famille, c'est pas dans les gènes, mais bah oui, c'est une habitude, c'est normal d'obéir au Seigneur. C'est complètement à l'inverse de notre monde. Hein. Mais nous qui sommes en Christ, c'est normal d'obéir au Seigneur, d'obéir à Dieu. C'est écrit, ça doit être gravé en nous, ça doit être profondément ancré dans nos fibres. C'est comme ça. Donc, ils sont à l'école du dimanche, vous leur direz. Ben oui, enfants, obéissez à vos parents. On va continuer avec une lettre que Paul a écrite à quelqu'un qu'il savait obéissant. Philémon, c'est une histoire que j'aime bien, à propos d'Onésime, cet esclave. Dans Philémon 1,20, Paul écrit à Philémon, « Oui, frère, que j'obtienne de toi cet avantage dans le Seigneur. Tranquillise mon cœur en Christ. C'est en comptant sur ton obéissance que je t'écris, sachant que tu feras même au-delà de ce que je te dis. » Là, Paul, c'est un sacré quand même. Il était sûr que Philémon, il lui obéirait par rapport à ce litige, ce qui était arrivé avec Onésime. Et vraiment, Paul avait cette assurance que Philémon allait lui obéir, allait répondre favorablement à sa requête en faveur d'Onésime. Et si Paul nous faisait une lettre aussi, par rapport à ce qu'on veut peut-être pas trop lâcher, il écrirait de cette même façon. Si Jésus s'adresse à nous en nous demandant quelque chose, est-ce qu'il va nous dire « Je sais que tu vas m'obéir, je te connais » ou est-ce qu'il va plutôt nous dire « Ça va être dur, hein, mais je vais encore te modeler pour t'apprendre à m'obéir. » Comment Jésus s'adresserait à nous dans un contexte analogue à celui-là ou pour toute autre chose dans notre vie? J'ai pas à venir gratter dans vos vies. Chacun peut se mettre devant le Seigneur et savoir que, ah ouais, c'est vrai, dans ma vie, moi, si jamais le Seigneur me demandait de renoncer à ça, ce serait dur. Et si jamais il te le demandait ce matin? Si c'était, imagine, c'est quelque chose qui est mauvais pour toi, tu le sais. Et le Seigneur, il voudrait que, enfin, tu le lâches dans l'obéissance. Est-ce que tu serrerais encore les dents pour tenir plus longtemps? Ou est-ce que tu dirais, ben oui Seigneur, je capitule, j'accepte ta volonté. Jésus, c'est ce qu'il a fait, hein. Il a accepté la volonté du Père pour offrir son corps. On va terminer, on va être dans le timing, avec Abraham. Là aussi, c'est extrêmement profond. Surnommé le père des croyants. Dans Genèse 12, au verset 11, Il est écrit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Je la phrase juste à côté. Abraham partit comme Dieu le lui avait dit. Il a obéi. Et pourtant, hein, rien que dans les paroles de Jésus, de l'Éternel qui s'est adressé à Abraham, Dieu le connaissait, cet Abraham. Va-t'en de ton pays. Ça veut dire que certainement qu'Abraham était conscient qu'il était dans son pays. De ta patrie. Ça veut dire qu'Abraham, quelque part, il avait un cœur. Ah, c'était sa patrie quand même, il y était attaché. Hein. Va-t'en de la maison de ton père. Oh, c'était sa maison. Il avait grandi là. Il avait son histoire là. Et l'Éternel continue, dans le pays que je te montrerai. C'est où ? Je te le montrerai. Tu ne sais pas encore. Je te le montrerai. C'est du futur. Vous vous rendez compte de ce qu'Abraham a dû quitter ? Son pays, sa patrie, la maison de son père. Franchement, mais c'est ridicule. C'est pas habituel. On reste dans la maison de son père quand on est dans le peuple d'Israël. On s'en va pas. Mais l'Éternel s'est adressé à lui exactement de cette façon-là. Ben ouais, c'est peut-être pas habituel, mais moi je te demande de le faire. Et à partir d'aujourd'hui, tu t'en vas. Abraham, il a obéi. Et Abraham, c'est quelqu'un qui a été marqué par l'obéissance au Seigneur toute sa vie. Il est surnommé le père de la foi, parce que la foi, l'adoration, l'obéissance, tout ça, c'est lié. Tout ça, c'est un tout. Et Abraham est donc parti. Et plus tard, ce même Abraham, tant de mal pour avoir un fils légitime, un vrai fils, un fils unique, Isaac. Vous connaissez toute l'histoire, je n'ai pas besoin de vous la raconter. Que de mal pour l'avoir ce fils, le fils de la promesse. Combien d'années il a attendu pour l'avoir ? Et voilà qu'un beau jour, l'Éternel s'adresse une nouvelle fois à lui. Et il lui dit, « Prends ton fils. » Ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Vous vous rendez compte, ce fils unique, bon, c'est une préfiguration de Christ, mais quand même, il a dû y passer Abraham. Il a dû prendre son fils. Partir, sans trop savoir où il allait une nouvelle fois, hein, la montagne que je te dirai. Il a dû vraiment faire confiance au Seigneur. Il a dû vraiment obéir au Seigneur. Et il y est allé, sur cette montagne. Et vous savez qu'il y est allé jusqu'au bout. Il avait attaché son fils sur le bois. Il était prêt à l'égorger. Dieu l'a mis à l'épreuve, hein, mais il a obéi jusqu'au bout. Et dans le Nouveau Testament, il nous est donné une information supplémentaire, c'est que, ben oui, il croyait que même Dieu était capable de lui rendre son fils par une résurrection. Il ne savait pas du tout comment ça allait finir. Pour lui, c'était le blackout, mais ce qu'il comptait pour lui, c'était d'avoir obéi à Dieu. Et il a obéi. Et son fils lui a été rendu, pop, sous la forme d'une résurrection. C'était pas ce qu'il imaginait, mais l'important pour lui, c'était d'avoir obéi au Seigneur. Et il a obéi. Arrivons-nous à nous représenter de ce que c'était pour Abraham, son fils. On a des enfants, hein, ils nous sont chers. On sait bien que Dieu n'irait jamais nous demander ça aujourd'hui, mais essayez de vous projeter dans le temps. Vous avez un seul enfant. Et puis, Dieu, en fait, quand il s'adresse, il connaît la personne, hein. Et de la même façon, va-t'en de ton pays, de ta patrie, comme je l'ai détaillé, c'est prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. C'est comme des clous qui se plantent dans le cœur, hein. Imaginons si Dieu s'était adressé à nous, si à la place d'Abraham, ça avait été nous. Essayons d'imaginer l'obéissance qu'il faut pour répondre favorablement à une telle demande. Est-ce que dans notre cœur, aujourd'hui, nous avons cette même obéissance au Seigneur? C'est à chacun de nous poser la question, hein. Aujourd'hui, le Seigneur s'adresse à nous par l'Esprit Saint. Il s'adresse à nous dans notre cœur, dans notre conscience. Hein, j'en parlais il n'y a pas longtemps à Nathanaël. Que Nathanaël n'aime pas faire ses devoirs, préfère jouer. Et on a eu une discussion il n'y a pas longtemps. Et je lui ai dit, Nathanaël, tu trouves ça normal de savoir dans ton cœur qu'il y a une voix qui te dit « fais ton travail ». Et tu choisis de la faire taire, cette voix, pour jouer. Est-ce que c'est bien ? Ah, baissez les yeux, évidemment. Il savait très bien que ce n'était pas bien. Et il me regarde en souriant. Mais le Seigneur s'adresse à chacun de nous. Et quelque part dans notre cœur, on sait ce que le Seigneur attend de nous. Non, vous ne le sentez pas dans votre cœur? On le sait. Et le Seigneur attend de nous une démarche d'obéissance. Sur notre route, il nous demande quelquefois d'accepter des choses qui nous semblent bizarre, on n'y était pas prêt. Moi, je me souviens, j'ai dû accepter de lui dire merci pour la maladie que j'avais, qui me faisait horriblement souffrir. Il m'a amené à cette obéissance, à lui dire, « Bah oui, Seigneur, tout ce que tu me donnes, c'est bon, même si, humainement, on dirait que ça ne l'est pas. » Mais l'obéissance spirituelle, elle dépasse l'intelligence humaine. Elle va bien au-delà. Et le Seigneur veut qu'on lui dise merci en toute chose. Soyez reconnaissants en toute chose. Tout à l'heure, on a chanté un chant. Je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte de ce que vous avez chanté. Tu donnes et tu reprends. On chantera toujours la gloire du Seigneur. Que ce soit l'Amérique ou que ce soit l'enfer en exagérant. Hein. C'est ça, hein, qu'on a chanté. Est-ce qu'on a réalisé ce qu'on a chanté? C'est que tu donnes ou que tu reprennes, Seigneur, c'est pareil, je loue ton nom. Pour réussir à faire ça, j'assure, il faut être sacrément obéissant. Sinon, on n'y arrive pas. Il faut réussir à reconnaître que, le Seigneur est souverain. Et j'obéis à ce qu'il produit dans ma vie. Aux événements qui surviennent, ils sont envoyés par lui. Et je les accepte dans l'obéissance au Seigneur. Il y a plein de distracteurs. Hein, Paul en parlait la semaine dernière. Il y a tellement de façons de se distraire, d'essayer d'échapper à l'obéissance au Seigneur il y a tellement de choses à regarder. Mais est-ce que, dans cette obéissance à Christ, on est prêt à renoncer à tout ce qui peut nous distraire de sa voix, de sa parole, de son message. Est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on est d'accord? Ben, ce matin, je peux vous assurer que le Seigneur nous demande de dire « Oui Seigneur, je suis prêt à t'obéir. Dans toutes mes fibres, je te dis oui. J'accepte ta volonté dans ma vie. » Le Seigneur attend de nous ce oui, comme Paul l'attendait de Philémon, comme l'Éternel l'a attendu d'Abraham, comme Dieu l'a attendu de son Fils. On a plein de modèles d'obéissance dans la Bible. Et Dieu s'attend, et il attend peut-être, qu'on se mette enfin à lui obéir. Voilà, c'est ce que j'ai reçu sur le cœur de vous donner ce matin. Mais je suis dans les temps, mais avant de terminer, je voudrais qu'on chante un chant qui m'est revenu beaucoup. C'est un chant que j'aime bien, c'est « Seigneur, attire mon cœur à toi ». À la deuxième strophe, c'est « Par ta puissance, brise, soumets ma résistance à tout jamais. Courbe mon être, courbe ma volonté, sois-en le maître incontesté, sois-en le maître incontesté. » Ça, c'est ce qui nous sacrifie. Hein. C'est dur, mais c'est le renoncement au moi. C'est accepter de dire oui, Seigneur. J'accepte ta volonté. Alors, je propose qu'on termine par ce chant et qu'on se place chacun devant le Seigneur. On a peut-être des choses à lâcher. On est peut-être conscient dans notre âme, dans notre conscience que, ben oui, dans notre vie, on a encore des pas à faire. Et ce matin, le Seigneur, il nous le rappelle. Je ne sais pas du tout quoi, mais toi, tu le sais. Ta conscience te le dit. Le Seigneur te parle. Et tu te dois de t'avancer près du Seigneur et de lui dire, « Oui, Seigneur, je décide de t'obéir. » Amen.